Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous. Au bout de ce journal, le magazine Salle Plus présenté par Claire Morin-Gibou. Mais tout d'abord, l'actualité. Et on va au Nigeria. Dans son tout premier discours, le président élu, Mohamed Bouhari, s'est réjoui de ce que son pays ait choisi la démocratie et rejeté le système de parti unique. L'ancien dictateur a aussi eu des mots gentils à l'égard de son prédécesseur, Goodluck Jonathan, qu'il avait appelé hier avant même la proclamation des résultats. Le point, Bagassi Koura.
M. Bouhari s'est exprimé hier soir à Abuja, quelques heures seulement après que la commission électorale l'a déclaré vainqueur officiel de l'élection présidentielle.
Nous avons prouvé au monde que nous sommes un peuple qui a choisi la démocratie et des gens qui cherchent un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
L'ex-général a qualifié son rival, le président sortant Goodluck Jonathan, d'adversaire valeureux à qui il tend la main de l'amitié. Pour sa part, M. Jonathan a demandé à tous les Nigériens d'accepter le verdict des urnes. Aucune ambition personnelle, a-t-il dit, ne vaut le sang d'aucun Nigérien. La sécurité était également au centre du discours de Muhammadu Buhari. L'ex-général a rappelé sa détermination à lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram qui ravage le nord-est du pays depuis 6 ans. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour amener la paix, a déclaré le général retraité de 72 ans. Le mandat de M. Bouhari débutera officiellement le 29 mai, date de son investiture.
Une victoire éclatante qui a suscité plusieurs réactions de par le monde entier, à commencer par celle du locataire de la Maison-Blanche à Washington. Le vainqueur n'a pas été le seul à recevoir les félicitations. Michel Joseph.
Barack Obama a bien évidemment félicité le président élu, Muhammadu Buhari, en saluant au passage le respect des principes démocratiques dont le pays a fait preuve durant le scrutin. Et puis, il a tiré son chapeau au président sortant, Goodluck Jonathan, qui, a-t-il dit, a placé les intérêts de son pays en premier, en reconnaissant sa défaite et en félicitant le président élu Buhari pour sa victoire. Le président français François Hollande a fait de même tout en réitérant la volonté de la France de poursuivre des relations étroites avec le pays. Au nom de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU a qualifié la victoire de Muhammadu Buhari de preuve de la maturité de la démocratie au Nigeria. Il a ensuite souhaité que le même esprit démocratique prévale lors des élections des gouverneurs et parlements des États de la Fédération nigériane le 11 avril. Ban Ki-moon a appelé les Nigérians à accepter le résultat de vote et à saisir les tribunaux en cas de contestation. Autre réaction, l'Union européenne a dès hier soir remercié le président sortant pour sa contribution à la consolidation de la démocratie dans le pays, un pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution exhortant la communauté internationale à soutenir davantage les pays africains dans leur lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Félix Yepasi Zembrou.
La résolution appelle la communauté internationale à fournir plus grand soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste Boko Haram. Le texte adopté lors d'une réunion extraordinaire du Conseil convoqué à la demande du groupe africain et d'autres pays, dont la France et la Russie, stipule que l'assistance portée aux pays affectés se fasse à leur demande et en collaboration étroite avec leurs gouvernements respectifs. La résolution demande notamment à la communauté internationale d'apporter une assistance technique à la force multinationale mixte de l'Union africaine chargée de combattre Boko Haram. Ce carnage qui constitue une claire menace doit s'arrêter, a affirmé le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein. Mais il a demandé aux pays africains de respecter les droits de l'homme, soulignant qu'il existe des informations crédibles accusant les forces de sécurité du Nigeria et d'autres pays de commettre de graves violations dans le cadre de la répression de Boko Haram.
République démocratique du Congo, la coopération entre la MONUSCO et l'armée congolaise doit reprendre le plus vite possible afin de combattre efficacement les rebelles hutus rwandais actifs dans l'est du pays. C'est ce qu'estime en tout cas le chef de la mission onusienne en RDC, Martin Kobler, qui dénonce les effets négatifs de la non-coopération entre les soldats congolais et les casques bleus. D'après lui, l'armée congolaise a certes récupéré des positions jadis tenues par les rebelles rwandais qui ont donc disparu de ces territoires, mais ailleurs, les combattants se sont mêlés à la population locale, a-t-il souligné. Rappelons que la République démocratique du Congo a renoncé à l'aide de l'ONU dans cette opération après des pressions l'invitant à remplacer deux généraux soupçonnés de graves violations des droits humains. Le Maroc a annoncé avoir démantelé une cellule recrutant des combattants pour le groupe djihadiste État islamique à Fès, une des principales villes du Maroc, Claire Morin-Gibou.
Le démantèlement de cette cellule terroriste a été réalisé par le tout nouveau BCIJ, le Bureau central des investigations judiciaires, la nouvelle structure inaugurée le mois dernier par les autorités marocaines dans le cadre du renforcement de la lutte antiterroriste. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur marocain, les combattants recrutés par cette cellule étaient envoyés dans des camps situés dans la zone de conflit syro-irakienne pour y recevoir des entraînements intensifs au maniement des armes, et le chef de cette cellule entretenait de solides liens avec les dirigeants du groupe État islamique. Toujours selon les informations du ministère, cette cellule aurait reçu un important financement étranger, notamment pour le déplacement des combattants. Quelques 1500 ressortissants marocains auraient rejoint les rangs d'organisations djihadistes, ce qui fait du royaume chérifien un des principaux pays pourvoyeurs de combattants d'origine étrangère.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans l'actualité internationale, cette percée majeure de l'État islamique, le groupe a pénétré aujourd'hui pour la première fois à Damas, le fief du régime syrien, s'emparant d'une grande partie du camp de réfugiés palestiniens à Yarmouk. C'était lors d'un assaut éclair, information recueillie par l'AFP du directeur des affaires politiques de l'OLP en Syrie. Et puis cette nouvelle liste rendue publique par le centre de surveillance américain de groupes extrémistes, Intel Center, selon l'organisation, 21 mouvements djihadistes du monde ont juré allégeance au chef du groupe État islamique, Al-Baghdadi, et 10 lui ont apporté leur soutien. L'on apprend aussi qu'il y aurait 31 mouvements implantés dans le monde, dans un arc allant de l'Algérie à l'ouest à l'Indonésie à l'est. C'est la cacophonie à Lausanne, en Suisse. Toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien. Quelques heures seulement après avoir été suspendu dans la confusion, les discussions ont repris ce mercredi 1er avril. La Russie et l'Iran ont évoqué des progrès et même un début d'accord, alors que les États-Unis assuraient que toutes les questions n'avaient pas été réglées. Un survol de la situation avec vous, Jacques Aristide.
Les pourparlers marathon entre les grandes puissances et l'Iran auraient dû s'achever mardi à minuit avec l'expiration de la date butoir. Au lieu d'un accord préliminaire, ce sont des messages contradictoires qui fusaient de toutes parts à ce mercredi. Si l'Iranien Mohammad Javad Zarif espérait la conclusion d'un accord aujourd'hui, le russe Sergei Lavrov, lui, faisait état d'un accord de principe déjà obtenu et qui allait être accouché sur le papier, je cite, « dans les prochaines heures ». Toutefois, des diplomates occidentaux estimaient qu'un accord de principe n'avait pas encore été conclu. Philip Hammond, secrétaire du Foreign Office britannique, a fait savoir que des points restaient à résoudre. Malgré l'incertitude, le secrétaire d'État américain John Kerry a entamé ce mercredi une rencontre avec son homologue Javad Zarif. Et depuis Jérusalem, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois mis en garde contre ce qu'il appelle un mauvais accord qui mettrait en danger Israël, le Moyen-Orient et la paix dans le monde.
La Palestine recherche la justice par la vengeance. C'est en ces termes que le chef de la diplomatie palestinienne s'est exprimé en recevant une copie symbolique du statut de Rome. Fondateur de la Cour pénale internationale, la Palestine est officiellement membre de la CPI. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à huis clos, au siège du tribunal de la Haye. Et puis du sport pour terminer, l'Argentine, une nouvelle fois privée de son maître à jouer, Lionel Messi, a pourtant battu cette nuit l'Équateur 2-1 en match amical de New York. À New York, Sergio Aguero a ouvert la marque pour l'Argentine avant que Miller Bolanos n'égalise pour l'Équateur. C'est finalement Javier Pastore qui a offert la victoire aux Argentins. Pour terminer, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA. San Antonio a quasiment son billet en poche pour les playoffs après son succès à Miami, 95-81. Atlanta a déjà assuré de terminer en tête à l'Est, a concédé une deuxième défaite en trois matchs. Les Hawks se sont inclinés 105-95 à Detroit. Golden State s'est imposé dans la salle de son grand rival californien, les Los Angeles Clippers, 110-106. Prochain rendez-vous sur VOA Afrique, c'est Sahel Plus avec Claire Morin-Gibou.
Soyez au cœur de la...